Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 18h05, l'heure du journal des sports avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial.
Avec la 9e étape du Tour, étape très serrée Guillaume.
Un contre-la-montre par équipe de 28 km entre Vannes et Plumelec. À Plumelec justement, où nous retrouvons Christophe Cessieux pour RMC. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
Ils étaient les favoris, les coureurs de BMC ont assumé leur rang en s'offrant la victoire pour une petite seconde.
Oh, même pas une petite seconde. 62 centièmes très exactement, 62 centièmes d'avance pour la formation américaine BMC qui remporte donc cette étape qui s'était déjà imposée lors du Critérium du Dauphiné sur l'épreuve du contre-la-montre par équipe. Ce sont de véritables spécialistes, mais s'ils se sont fait peur, car la formation Sky de Chris Froome ne voulait pas aujourd'hui perdre l'étape et ne voulait pas surtout que Chris Froome soit dépossédé du maillot jaune. Ils ont donc tout donné à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ils étaient encore en tête d'après nos pointages avec nos chronomètres, mais dans les derniers hectomètres, dans la montée de la côte de Cadoudal, l'un des équipiers de Chris Froome a un petit peu perdu pied et du coup ils ont perdu leur avance. Il termine donc à 62 centièmes. Enfin, mis à part la victoire d'étape qui leur échappe, Chris Froome évidemment conserve son maillot jaune et c'était là le plus important pour le Britannique, qui confirme qu'il est donc bien l'homme fort de ce début de Tour de France dont on a terminé la première partie aujourd'hui. Place désormais aux montagnes et c'est vrai qu'avec les avantages, l'avantage chronométrique que possède Chris Froome, il va pouvoir aborder les Pyrénées de manière assez tranquille puisqu'il est largement devant tous ses principaux ses principaux adversaires au classement général. On vous donnera tout à l'heure les classements exacts, mais en tous les cas, bonne avance pour Chris Froome qui va pouvoir tranquillement se reposer demain à Pau avant d'attaquer les premières étapes des Pyrénées mardi.
Merci Christophe. Contador hein, qui est au classement général est 5e, Quintana 9e, Nibali qui a encore perdu du temps aujourd'hui 13e. Meilleure équipe française dans ce contre-la-montre, la formation AG2R qui termine 10e. De son côté, la FDJ prend la 14e place, une journée positive selon le coureur français Thibaut Pinot.
On s'est bien battu, on n'a pas trop de regrets, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a fait ça comme si on devait le faire à fond, donc voilà, c'est important. C'est sûr que j'ai eu des petits pépins cette semaine qui m'ont fait que voilà, j'avais du mal à être à 100% et j'espère vraiment y être à partir la semaine prochaine.
Voilà, Thibaut Pinot plutôt satisfait, un contre-la-montre par équipe qui s'est déroulé. On en parlait avant la première journée de repos demain, journée de repos salutaire. Écoutez à ce propos Cyril Gauthier, le coureur de la formation Europcar.
Ouais, ça va faire du bien après 9 jours compliqués, nerveux, pas forcément par le relief, mais voilà, par l'attention des coureurs et les conditions qu'on a pu avoir de la première étape. Donc voilà, maintenant on va essayer d'aborder la deuxième semaine avec un peu plus de fraîcheur. Demain, ça va permettre de récupérer un peu.
Ça va faire du bien, Cyril Gauthier, à l'instant au micro de Pierre-Yves Leroux.
Et on revient sur ce contre-la-montre avec Cyril Guimard, 18h20, comme tous les jours, les maîtres encore sur le cours du côté de Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Oui, c'est l'autre événement évidemment de la journée, la finale de Wimbledon qui oppose depuis 15h Roger Federer à Novak Djokovic. On retrouve sur place Eric Salio. Salut Eric.
Salut.
Et après une interruption due à la pluie, cette finale somptueuse, elle a bien repris.
Elle a bien repris et attention, un moment important, balle de break pour Novak Djokovic dans cette quatrième manche. Je rappelle le score, 7-6 Djokovic, 7-6 Federer, 6-4 Djokovic. Nous sommes à 2 partout, 30-40. Et voilà, Federer breaké, attention, c'est peut-être le champ du cygne pour le Suisse qui a bien faibli physiquement depuis la reprise du match à 17h42. Donc 3 jeux à 2, Novak Djokovic qui est sur une voie royale pour conserver son titre ici à Wimbledon. Mais que ça a été dur avec notamment ce tie-break du deuxième set, un tie-break d'anthologie remporté 12 points à 10 par le Suisse. À noter aussi que la pluie menace une nouvelle fois ici à Wimbledon. Ce serait pas impossible que cette partie soit de nouveau interrompue.
Eh ben, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose, Eric Salio. Bien sûr, cette finale Djokovic-Federer, on la suit dans l'intégrale Tour. Et on a aussi un beau programme, Guillaume, avec les championnats de France d'athlée du côté de Villeneuve-d'Ascq.
Et on rejoint à Villeneuve-d'Ascq justement François-Xavier de Châteaufort. Salut Fix.
Salut Guillaume.
Il a bien réagi, hein, Renaud Lavilloni, même s'il a échoué à 6 mètres, le Clermontois remporte aisément le titre de champion de France.
Ouais, sans contestation, 5m85 à son premier essai. Il remporte ce titre, son 5e titre de champion de France en plein air devant Kevin Menaldo. Renaud Lavillenie qui s'est rassuré malgré les conditions météo qui n'étaient pas vraiment très favorables. Il y avait du vent, ils se sont échauffés les perchistes sous la pluie. Mais voilà, Renaud a bien géré son concours, mieux qu'à Paris et à Lausanne. Et voilà, donc c'est un nouveau titre de champion de France pour Renaud qui est reparti, qui a tenté 6 mètres par 3 fois, mais ça n'a pas passé. Ça sera bien peut-être partie remise pour les meetings de Monaco et Londres qui l'attendent dans les jours à venir.
Et Fitz, quelle finale tout à l'heure sur le 110 mètres haies avec la victoire de Garfield Darien qui redevient champion de France de la spécialité.
Ouais, un vrai retour pour Garfield Darien qui avait été éloigné des pistes en raison de blessures, également de maladies. Il avait été victime du chikungunya. Voilà, Garfield Darien qui avait fait bon effet, bonne impression lors du meeting Areva de Paris-Sani au Stade de France il y a une semaine et qui l'a vraiment confirmé avec la manière parce qu'il y avait du costaud. Hein, c'était ce qui se faisait de mieux en France avec Pascal Martino Lagarde, Dimitri Bascou. Il les a tous devancés. Il s'est vraiment battu. Il y a eu un beau match à trois dans cette finale avec donc la victoire de Dimitri et de Garfield Darien devant Pascal Martino Lagarde et Dimitri Bascou qui prend la troisième place. Une petite déception quand même pour PML, Pascal Martino Lagarde qui depuis quelques sorties n'arrive pas vraiment à confirmer son bon début de saison et c'est 13-06 du meeting de Eugene.
Et on aura bien notre duel numéro 2 entre Christophe Lemaître et Jimmy Vico tout à l'heure sur la finale du 200. Ils ont été sereins en série, hein, Fix.
Ouais, très très relax. On peut pas vraiment tirer d'enseignement des séries du 200 tout à l'heure. Les deux ont remporté leur série avec des chronos très modestes. Ils ont vraiment levé le pied, comme on dit, sur les 40 derniers mètres. On verra ce que ça donnera en finale tout à l'heure. Le vent pourrait peut-être les aider pour faire le chrono. Et notamment, on pense à Jimmy Vico qui est toujours en quête de minima sur le 200. Un chrono à 20-38. Il faudra au moins faire 20-38 pour Jimmy pour valider son billet pour les mondiaux de Pékin sur 200. Sur 100 mètres, c'est fait. Et sur 200, il lui manque le minima.
Merci Fix. On te retrouve donc à 18h50 pour la finale du 200. Les autres résultats à retenir de cette journée à Villeneuve-d'Ascq, Pierre-Ambroise Bosch, champion de France du 800 mètres pour la troisième fois et puis neuvième titre pour Mikael Anani à la hauteur.
Ça commence à faire le foot, Guillaume, et le PSG qui joue ce soir.
Avec des nouvelles effectivement de cette équipe parisienne actuellement en préparation, sous le soleil en Autriche, le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, commence sa saison ce soir contre un club de troisième division autrichienne, le Wiener Sport Club. Beaucoup de titulaires absents, mais début attendu pour le gardien allemand Kevin Trapp. Rapidement, des infos transfert, toujours au PSG. D'ailleurs, Lavezzi pourrait revenir en Italie. L'Argentin suscite l'intérêt de la Juventus Turin. Un autre Italien, d'ailleurs, Immobile, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui est lui prêté au FC Séville. En Ligue 1, le Montpelliérain Mounier serait supervisé par l'Ajax Amsterdam. Toutes les infos transfert, évidemment, à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Le rugby, ça fait une semaine qu'on parle de préparation physique. Aujourd'hui, le mot d'ordre, Guillaume, c'est récup.
Oui, et ça va faire du bien. Laurent Depré, notre spécialiste rugby, nous a rejoint. Salut Laurent.
Salut, ça va faire du bien à tout le monde. Oui.
Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Journée des récup donc bien méritée pour les Bleus après une première semaine de préparation, on l'a dit, particulièrement éprouvante.
Oui, avec très peu de pourcentage de matière rugby, mais par contre de la matière dégraissage, énormément de musculation, du crossfit, de l'énergétique, et ça a commencé évidemment dès le lundi. Il y a eu 10 demi-journées consacrées au travail physique sur les 2 demi-journées que compte juste évidemment chaque journée. Vous allez écouter un petit peu Johan Huger. Samedi, c'était entraînement ouvert au public, petite respiration, beaucoup de ballons du soleil, que du bonheur.
Entraînement ouvert, Marc Poussier, on n'en a pas souvent et ça fait du bien d'être de communier avec le public avant de partir à Tignes pour une grosse charge de travail.
Dur la semaine. Hein.
Très dure semaine de reprise, on va dire, on n'est pas habitué.
Ça n'a pas été simple pour Johan Huger. La journée d'aujourd'hui, elle a été quand même plus tranquille. Hein.
Elle a commencé même hier avec l'avenue surprise, parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille sur la cohésion de deux grands chefs, Constant et Etchebest. Et puis il y a eu des jolis plats qui ont été concoctés et dégustés. On s'est couché quand même relativement tôt aujourd'hui. Les familles étaient admises à Marcoussis pour un déjeuner très convivial dans le verdoyant centre national du rugby.
En rugby à 7, Laurent, après les filles, les garçons, 3 semaines après la qualification de l'équipe de France féminine, l'équipe de France masculine s'est qualifiée à son tour pour les Jeux Olympiques de Rio.
Ouais, en terminant premier de la poule A, ensuite en écartant les Gallois et en poinçonnant, validant le ticket pour les Jeux Olympiques de Rio en août 2016, en écartant ensuite en demi-finale sans problème pour se qualifier contre les Anglais. La finale d'ailleurs, ça sera dans une petite heure, c'est juste, allez, on va dire, une médaille en chocolat gagnée en plus. Thierry Bouraoua est de l'aventure du 7 depuis plus de 5 ans. Il sait qu'il revient de loin, que cette équipe de France revient de très très loin.
On revient de loin parce que ça n'a pas toujours été facile. On n'a pas toujours eu les choses pour nous, mais la mission qu'on avait de qualifier l'équipe de France pour les Jeux de Rio, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'était. Il y a beaucoup de fierté d'abord, beaucoup de soulagement, parce que ouais, quand on a le sentiment de devoir accompli, entre guillemets, ça fait toujours du bien à la tête, quoi. Il y a des moments où on est capable du meilleur, des fois on est aussi capable du pire. Et voilà, nous, notre bataille, elle est contre nous-mêmes. Elle est de faire en sorte que la continuité reste.
Voilà la satisfaction de Terry Bouaoua. Merci Laurent. RMC, on vous le rappelle, radio officielle de l'équipe de France olympique. En bref, en MotoGP, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Allemagne. Le champion du monde s'impose devant son coéquipier Pedrosa et Valentino Rossi. Le français Loris Baz prend la 19e place. Rossi conserve la tête du championnat avec 13 points d'avance sur Lorenzo. Et puis en Moto2, Johan Zarco termine deuxième derrière le belge Xavier Siméone. Le français reste leader. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle du championnat du monde.
Merci Guillaume, on te retrouve à 19h. Nous on va juste filer du côté de Wimbledon, la finale entre Djokovic et Federer, 4e set. Eric Salio,
4 jeux à 2 pour Novak Djokovic en cette 4e manche qui peut être la dernière hein, si le Serbe conserve son avantage. Et attention, 30 as sur la mise en jeu de Roger Federer qui faiblit physiquement, c'est indéniable, et qui commet une double faute. Attention, balle de 5-2, c'est quasiment une balle de match pour Novak Djokovic dans cette finale de Wimbledon, qui a perdu un peu d'intensité depuis la reprise du jeu, mais que le tie-break du deuxième restera dans les annales. Voulez-vous qu'on suive cette balle de 5-2 ?
Oui,
de 5-2. Donc pour Novak Djokovic, il faut absolument que Federer retrouve son service, mais pour l'instant il frappe moins fort, c'est évident. Elle est sauvée Martial, 4-2, 40-1 dans ce 4e set.
Federer s'accroche, on en parle dans quelques instants avec nous Cyril Guimard pour revenir sur cette 9e étape du Tour de France contre la montre par équipe, remportée par l'équipe BMC de l'américain Van Garderen avec 62 centièmes seulement d'avance sur les Sky de Chris Froome.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h18 sur RMC, l'Intégral Tour avec Cyril Guimard dans quelques instants avec nous. Mais on va retourner du côté de Wimbledon, Djokovic, Federer, Eric Salio. Federer qui s'accroche, hein.
Ah, il s'accroche, oui, il ne veut pas mourir comme ça aussi vite, mais que c'est compliqué pour le Suisse, parce que Djokovic pour l'instant c'est le patron hein, sur le court. Il n'a pas pu concrétiser ses deux balles de 5-2, car il y en a eu une deuxième il y a quelques secondes, mais il est toujours dans le coup pour subtiliser la mise en jeu du Suisse, qui est vraiment à la peine depuis quelques minutes. On pensait que l'interruption lui ferait du bien, que le discours de ses coachs lui redonnerait un deuxième souffle, mais non, il n'a pas pu repartir comme il l'entendait. Il faut dire que Djokovic lui ferme régulièrement la porte. Il y a un domaine dans lequel il est extraordinaire, c'est le retour de service.
Ah oui.
C'est vraiment incroyable, et on comprend mieux ce que disait Richard Gasquet quand il disait il retourne tout à 20 cm des lignes, et Federer vit le même cauchemar. Pourtant il sert beaucoup mieux que le français, mais ça ne suffit pas à remporter des points gratis, comme on dit, des points faciles, mais il s'en sort Federer. Il revient donc à 4 jeux à 3, et voilà, donc Djokovic, s'il remporte ses deux mises en jeu, eh bien il brandira la coupe dans un petit moment.
Ah ouais, ça dure encore et on se régale. À tout à l'heure, Eric Salio, le Tour de France avec Cyril Guimard dans l'Intégral Tour, bien sûr, comme tous les jours, 18h19. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Avec un contre-la-montre par équipe, Cyril, qui s'est joué pour quelques centièmes, 62 centièmes entre l'équipe BMC qui gagne, l'équipe de TJ Van Garderen, avec officiellement ça fait une seconde d'avance sur l'équipe Sky de Chris Froome. On va donner aussi le classement. La troisième équipe, c'est la petite surprise quand même, Movistar. En tout cas, l'écart est faible, 4 secondes seulement perdues par l'équipe de Quintana et Valverde sur les BMC. L'équipe de Contador Tinkoff, 4e de l'étape à 28 secondes. L'équipe Nibali, 5e à 35 secondes. Puis on va juste donner l'équipe aussi AG2R La Mondiale, qui a une 24 avec Bardet, Perrault et Villermoz. Et puis la FDJ de Thibaut Pinot, une 33 de perdu, et Barguil lui a cédé avec son équipe Giant une 37 sur Van Garderen. Cyril, déjà revenons sur l'étape en soi, avec Descai qui s'incline pour une seconde, avec ça s'est joué dans la dernière côte, en tout cas c'est l'impression qu'on a eue avec un équipier de Sky. Il fallait que les 5 arrivent ensemble, pour en tout cas le temps était pris sur le 5e de l'équipe, et le 5e dans la dernière côte, il a un peu cravaché hein.
C'était la problématique d'une arrivée aussi difficile que la côte de Cadoudal ici à Plumelec, et on savait que le cinquième homme était l'homme clé. Alors pour deux raisons. La première, c'est que le temps est pris sur lui, et surtout il faut que ce cinquième ne soit pas complètement cuit, quoi, complètement vidé, qu'il ait plus de gaz. Et l'équipe Sky possédait la flamme rouge, puisque j'ai fait un chronométrage perso. Il y avait en entre 5 et 6 secondes d'avance pour l'équipe Sky. Et donc, le dernier kilomètre, ils ont été obligés de retirer, de ralentir. Et ils ont perdu, donc, ces 5 secondes, on va dire 6. Et ces 6 secondes leur seront fatales. Si le coureur le plus faible avait seulement pu monter 0,01 à l'heure plus vite, ouais. Eh bien, c'est la Sky qui l'emportait. Ceci dit, ça ne changera pas la phase de la course, sauf que Froome a perdu 4 secondes ou 5, on va dire 5 secondes sur ses adversaires les plus importants. Mais quand on fait le bilan, chaque équipe à un moment ou à un autre a eu un petit souci, une petite faute technique. Si on prend un G2R, très tôt ils ont perdu Riblon sur crevaison, ce qui explique pas 1 minute 20, mais Riblon en plus c'était peut-être seulement 1 minute 10 ou 1 minute 5. Mais la course est terminée, on ne la refait pas. Maintenant il y a la réalité du classement général à 48 heures de la première étape de montagne, avec à la Pierre Saint-Martin une montée sèche en fin d'étape qui fera vraisemblablement des dégâts. Mais aujourd'hui Froome se retrouve conforté dans sa position de leader.
On va le donner, le classement général, Cyril, voilà. Si tu veux bien. Chris Froome donc premier avec 12 secondes d'avance sur Van Garderen, puis après je vais donner les favoris du classement général. Contador 5e à 1,03, Valverde à 1,50, Quintana à 1,59, Nibali à 2,22, Barguil à 2,43, Perro à 3,30 et Romain Bardet à 4,38. Pinot encore perdu du temps, lui il a 8,05. On notera le bon coup pour le classement général aussi aujourd'hui, c'est Quintana, Cyril, qui perd que 4 secondes alors qu'on n'attendait peut-être pas l'équipe du Colombien aussi près de l'équipe Froome.
Non, on pensait éventuellement qu'il allait perdre davantage, mais cette équipe Movistar qui a frôlé la correctionnelle à un moment, parce que effectivement Valverde et Quintana ont monté trop vite à mi-parcours une longue côte, et l'équipe a littéralement explosé. Et il a fallu donc attendre les équipiers, parce qu'il faut finir à 5. Valverde et Quintana, peut-être qu'à 2, ils auraient roulé plus vite que toutes les autres.
Ils auraient gagné l'étape à 2, peut-être. Froome, il aurait peut-être gagné l'étape tout seul aussi.
C'était moins évident, parce que quand on regarde Valverde et Quintana, c'est quand même ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. On pensait que Quintana n'aurait pas été très à l'aise dans un contre-la-montre par équipe. Il n'en est rien été. C'est vrai qu'il y avait des portions relativement difficiles. Donc, Quintana, est à moins de 2 minutes. Il reste quand même l'adversaire le plus dangereux pour Christopher Froome. On sait que c'est un pur grimpeur, qu'il est capable d'enchaîner les ascensions, qu'il est capable de porter des accélérations soutenues, c'est-à-dire qui durent dans le temps. Est-ce que Froome arrivera à le contenir jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez? Ça n'est pas évident. Ceci dit, on est là aussi pour avoir du spectacle. On l'aura sûrement. D'un autre côté,
tu penses que ça peut s'expliquer dès mardi entre les Cadors, Cyril?
Il est toujours intéressant, même si ça n'est qu'une seconde, de la prendre. Donc si Quintana il peut reprendre 15 ou 20 secondes, faut quand même pas perdre de temps, hein. Il y a que 5 véritables arrivées au sommet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il reprenne en gros 25 secondes par arrivée au sommet. Donc s'il peut déjà commencer à la Pierre Saint-Martin, ça n'est pas mal, mais c'est dans le domaine des possibilités. D'un autre côté, il a un autre équipier qui est placé et dont il faut toujours se méfier, c'est quand même Valverde.
Valverde qui est même devant lui au général pour l'instant.
Qui est même devant lui au classement général pour quelques secondes. L'inquiétude, elle est quand même pour le vainqueur sortant, Nibali. Nibali qui continue à perdre du temps pratiquement tous les jours.
Il est à 2,22 de Froome ce soir.
2,22, c'est beaucoup, parce que je vois pas comment Nibali peut reprendre du temps à Quintana. Donc s'il peut pas reprendre du temps à Quintana, il est battu.
Mais il sera derrière.
Contador, c'est le point d'interrogation, mais Contador, il commence à perdre aussi du temps. Son équipe n'a pas été extraordinaire aujourd'hui dans ce contre-la-montre. On l'a vite vu quand même limité dans cet effort. Et okay. Contador, hier, n'était pas non plus au mieux. Nibali a perdu du temps, mais peut-être pu en perdre.
Très bien, Cyril. On te retrouve à 19h, bien sûr, pour redébriefer avec toute la Dream Team cette 9e étape. Mais on va tout de suite au tennis du côté de Wimbledon. Eric Salio.
Ouais, Novak Djokovic est à deux points de remporter son troisième Wimbledon face à Roger Federer qui est en grosse difficulté. 5-3 Djokovic dans cette troisième manche et 0-30 maintenant 15-30. Il faut vraiment sortir des coups de magie le Suisse, sinon il va pas s'en sortir. Djokovic est beaucoup trop solide depuis une demi-heure. Il retourne incroyablement bien, comme ici, retour gagnant, balle de match pour Novak Djokovic. Incroyable Djokovic, cette faculté à retourner à 20 cm des lignes, et là en plus c'était sur une première balle tout de même à 197 km/h, c'est tout simplement éblouissant. Il est le meilleur dans ce domaine et c'est le secteur de jeu qui a fait la différence. Donc balle de match pour Novak Djokovic avec une deuxième balle de service à négocier pour Roger Federer. Autant dire que le Suisse est en grand danger avec Novak Djokovic qui retourne encore à 20 cm des lignes, qui va monter au filet. Non, il n'ose pas y aller, mais il est en position de conclure. Voilà, c'est fini. Novak Djokovic qui remporte une extraordinaire finale de Wimbledon en 4 manches. 16-6, 6-7, 6-4, 6-3. C'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois que Federer perd deux finales d'affilée. La fois précédente, c'était en 2008 avec un certain Rafa Nadal. Mais voilà, une fois de plus, le Suisse trouve son bourreau. Novak Djokovic, énorme, malgré la perte d'un deuxième set qui restera dans les annales puisqu'il s'était procuré 7 balles de set. Djokovic reste le patron du gazon londonien.
Eh ben, ça va lui faire du bien aussi au moral, hein, parce qu'on se souvient de ses larmes, Eric, du côté de Roland-Garros après sa défaite face à Wawrinka. Mais là, il embrasse le gazon.
Ouais, non, mais il lui fallait absolument cette victoire et c'est vrai qu'il a su hausser son niveau de jeu au fil du tournoi. Il était en grand danger en huitième de finale face à Kevin Anderson, le Sud-Africain, mené 2-0 avec même des balles de break à sauver dans le cinquième. Mais face à Richard Gasquet, il était largement au-dessus et là, eh bien, il a enterré les espoirs de Federer qui n'a pas su capitaliser sur le gain du deuxième set. Il s'est un petit peu écroulé au début du troisième en offrant vraiment un break qui s'avère crucial parce que derrière, il n'a jamais pu repartir de l'avant face à un Djokovic qui lui a eu un niveau de jeu tout à fait constant. Il n'a jamais baissé d'une seconde et c'est là qu'il a été le plus fort, alors que Federer, c'est peut-être l'âge aussi, hein, bientôt 34 ans, et eh bien il a un petit peu piqué du nez, comme on dit, dans la troisième heure de match, et voilà pourquoi donc Novak Djokovic remporte un nouveau Wimbledon, son troisième, son neuvième grand chelem. Federer, ça fait 3 ans qu'il ne gagne plus de grand chelem, ça commence à faire beaucoup.
Ça fait beaucoup en effet. Eric, on te retrouve dans quelques instants pour la remise des trophées du côté du Center Court de Wimbledon avec donc cette belle victoire de Novak Djokovic. Je rappelle notre rendez-vous aussi à 18h50, le 200 mètres, Vico le maître avec un bel affrontement du côté des championnats de France de Villeneuve-d'Ascq.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h31 sur RMC, le Tour de France. On y retournera tout à l'heure, 9e étape à partir de 19h. L'athlétisme, c'est à 18h50 avec le duel sur 200 mètres. Jimmy Vico face à Christophe Lemaître, peut-être une revanche du 100 mètres d'hier, gagné par Vico en 9,92. Et puis le tennis, on vient de vivre la victoire de Novak Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon avec Eric Salio, victoire face à Roger Federer en 4-7. Appelez-nous au 32-16 ou alors vous avez le hashtag RMC Live évidemment pour réagir sur cette victoire de Djokovic. Eric Djokovic, très costaud, plus costaud que Federer, il faut le faire sur le gazon.
Ouais, d'autant qu'il a vraiment dû digérer la perte d'un deuxième set tout à fait époustouflant, puisqu'on rappelle que il s'est procuré 7 balles de set dont 6 dans le seul tie-break, et que il avait eu notamment je pense qu'il aurait pu briser sa raquette puisqu'il avait un coup droit penalty et il a fait le mauvais choix et il s'est retrouvé embarqué dans un jeu décisif interminable, finalement perdu 12-10. À ce moment-là, Federer pouvait encore gagner Wimbledon. Mais malheureusement, il n'a pas su maintenir son effort. Dans le troisième set, il a cédé trop vite sa mise en jeu sur une énorme erreur en coup droit qui ne lui ressemble pas. Et à partir du moment où Djokovic a repris les commandes, eh bien, il n'a plus lâché. Il n'a plus lâché son rival. Il l'a tenu en fond de court. Il a retourné de manière vraiment éblouissante parce que voilà, c'est le meilleur retourneur du monde. Il a un œil extraordinaire et même Federer donc s'est cassé les dents face à ce satané Djokovic donc qui a bien digéré Roland Garros, un Suisse qu'il bat en finale. Ça va, mais pas deux.
Ça fait 9 titres, hein, c'est ça pour Grand Chelem, pour Djokovic. Ouais. Ça commence à faire aussi. On a Alexandre qui nous a rejoint au 32-16. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir l'équipe.
Salut Alexandre. Bonsoir. Tu voulais réagir à cette belle victoire du Serbe Djokovic en finale face à Federer.
Oui, et puis une analyse à chaud, puisque d'habitude, j'ai toujours l'habitude d'intervenir à froid dans votre émission. Là, c'est vraiment un chaud, et vu que je suis un supporter de Federer, je suis assez déçu. C'est vrai que, comme l'a très bien dit Eric, Djokovic a été énorme en retour. Il a vraiment été éblouissant, comme tu as dit, Eric, sur très près des lignes, toujours énormément de profondeur. Cette fameuse zone qu'il a utilisée pour mettre à mal le jeu de Nadal sur terre battue, cette zone à 50 cm de la ligne à peu près, dans les pieds très fort, sur le revers à une main de Federer, ça fait énormément de dégâts. Federer qui, moi, je trouve, a fait vraiment, vraiment beaucoup de fautes. Alors, énormément de fautes provoquées, hein, il faut être honnête, bien sûr, hein, car Djokovic a été énorme. Mais j'ai quand même trouvé que Federer avait fait quelques fautes, notamment en revers sur des coups assez faciles qui n'impliquent pas un engagement total. Des revers qui prenaient la bande, des fautes en longueur. Mais voilà, il est tombé face à ce qui se fait de mieux en qualité de retourneur. Il est toujours obligé de jouer la limite, Federer. Je savais bien qu'il ferait beaucoup plus de fautes parce qu'il serait obligé de jouer un tennis encore plus offensif contre Djokovic que contre Murray. Mais voilà, je pense que Roger, il a pas de regrets à avoir. Il est tombé face à un Djokovic vraiment énorme, ultra solide. On savait que ce serait difficile de retrouver une qualité de première aussi énorme qu'il a eu face à Murray, parce que ce match-là était vraiment... D'ailleurs, c'est les mots de Roger lui-même qu'il avait fait un des meilleurs matchs de sa carrière, notamment au service. Donc, pas trop de regrets à avoir. Et alors, si vous me permettez, bon, après avoir dit ça, j'aimerais revenir plus largement sur ce tournoi et revenir un peu quand même sur la performance de Gasquet. Parce que bon, certes, oui, les plus coriaces diront qu'il n'a fait qu'une demi-finale, etc. Mais quand même, il bat Stanislas Wawrinka dans un match de légende, dont 5 au 5e. On a vu quand même des très beaux matchs en globalité sur ce Wimbledon. Quelques joueurs qui ont décidé de retourner au filet, voire même beaucoup, beaucoup de retours au filet. Federer extrêmement fossile face à Murray. Face à Djokovic quand même, parce qu'il nous a quand même encore servi quelques volets caviar, avec vraiment un toucher de balle qui rappelle ses plus belles années. Donc voilà, pas de regrets à avoir pour Roger. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est vraiment tombé contre un Djokovic énorme, même si je pense quand même que Roger aurait peut-être pu négocier quelques points d'une meilleure façon, dont le fameux coup droit dont tu parlais, Eric, tout à l'heure, là, ce coup droit qui sort, là, qui offre le break à Djokovic.
Mais tu nous fais la totale, Alexandre, là. Tu nous fais l'analyse complète. Tu veux pas nous parler de la finale de Coupe Davis aussi, non? Tant qu'on y est. Tiens, alors, à ce propos, Eric, ils sont tous là, non? Gasquet, il arrive demain. Je sais plus ce que tu nous disais hier
Richard arrive ce soir, et je pense que demain, ils seront tous à pied d'œuvre sur le gazon du Queens, même si apparemment les conditions météo sont pas bonnes. Donc ça, c'est un petit problème.
Et
mais
le Queens, on est d'accord, il n'y a pas de toit hein, du côté du Queens.
Non, il n'y a pas de toit.
Donc la semaine prochaine, attention aussi à la météo.
Mais le week-end est beau, je crois, le week-end prochain, donc il n'y aura pas de soucis.
Et là, on est en train de mettre le toit pour la remise
pour
des trophées.
Pour la cérémonie, ouais, c'est pour ça que les deux joueurs sont partis au vestiaire pour prendre une petite douche, pour être tout beau. Ouais. Et on aura donc la cérémonie protocolaire.
Merci Alexandre de nous avoir appelé au 32-16.
Je vous en prie.
Et puis Eric, à tout à l'heure évidemment, pour revenir sur cette finale de Djokovic face à Roger Federer.
RMC France Olympique.
Et 18h36 sur RMC, on va maintenant parler d'une équipe de France qui casse tout sur son passage, qui fait peur à tout le monde, l'équipe de France de volley. Invaincue depuis 14 rencontres, elle vient de se qualifier hier pour le Final Six de la Ligue mondiale. Ça faisait 8 ans que ça n'était pas arrivé, ça commençait à faire. Et on est avec Genia Grebennikov, le libéro de cette équipe de France. Bonsoir Genia.
Bonsoir.
Alors, Genia, cette équipe de France, il y a du talent, il y a des résultats, il y a de la joie. Tout vous réussit en ce moment.
Ouais, tout nous réussit. Là, on est sur 14 victoires d'affilée. On est en train de réaliser l'objectif qu'on s'était donné avant cette compétition, qui était d'accéder au top 6 de cette World League. Et voilà, on vient de le réaliser. Maintenant, on va aller à Rio dans ce top 6 pour faire quelque chose là-bas et voilà, confirmer ce qu'on est en train de réaliser.
Alors, vous vous rendez compte quand même du niveau actuel de cette équipe de France. Vous jouez l'Argentine, 6e nation mondiale, vous leur mettez 3-0. Les Bulgares, c'est la même chose, 3-0 hier. Pour se qualifier, eux-mêmes disent que vous avez un niveau assez surprenant pour une équipe de France.
Bon, en fait, déjà, ça fait 2 ans, je trouve, qu'on a complètement transformé cette équipe avec l'arrivée de Laurent Thy. Je trouve qu'on progresse de jour en jour.
Votre sélectionneur, Laurent
Thy. Sur les compétitions. Ouais, c'est ça. Et en fait, déjà, l'année dernière, tout le monde disait, mais vous jouez très bien. Dans les championnats du monde, voilà, on espère que vous allez confirmer l'année prochaine. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de réaliser. On fait de très bonnes performances depuis le début de la compétition et on espère que ça va continuer parce que notre objectif premier, c'est quand même les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on donne à fond et que voilà, je pense qu'on a gagné en maturité et en expérience dans cette équipe, quoi.
Alors, Génia, vous parliez des championnats du monde, la France qui avait terminé quatrième. Vous parlez aussi de Rio 2016, cette fois, évidemment. C'est pas encore gagné parce qu'il y a, ça passe par un tournoi de qualification olympique, hein. C'est ça pour vous, de toute façon. Début janvier, c'est là que le couperet va tomber.
Oui, en fait, pour les tournois de qualification, c'est très, très compliqué. Même nous, on comprend pas encore tout à fait tout ce qu'il faut. Par tous les tours où il faut passer, mais c'est vrai qu'on sait que en Europe, au niveau du volley, c'est très compliqué de se qualifier aux Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que nous, ça fait depuis la fin des Jeux de Londres qu'on travaille avec Laurent pour atteindre cet objectif, parce que nous, dans notre équipe, personne n'a encore réalisé d'Olympiade. Mmh. Donc voilà, c'est un objectif en commun qu'on s'est fixé depuis le début et on espère qu'on va le réaliser. Et depuis les belles performances qu'on fait en ce moment, on y croit de plus en plus.
Et vous allez encore pouvoir vous jauger dans les jours qui viennent, parce que dans ce Final Six, dans votre pool, c'est quand même le Brésil, vice-champion du monde, et les États-Unis qui ont gagné la Ligue mondiale l'an dernier. Donc là, encore un cap à franchir.
Bah là, c'est clair que ça va être très intéressant. Là, on va se frotter vraiment au top niveau du volley mondial. Donc ça va être, on va pouvoir se jauger grâce à ces matchs-là pour voir où on en est. Mais je pense que ça va le faire. On a vraiment encore cette motivation et on a envie de vraiment faire quelque chose là-bas, parce que on performe bien en ce moment et puis on a envie de continuer notre série.
Il y a juste un truc qui m'intrigue, Génia, c'est, vous aimez les voyages, vous avez l'habitude dans l'équipe de France de voler, mais là on est dimanche et dès mercredi soir à Rio, vous devez jouer contre le Brésil. Faut vite se remettre du voyage. Hein. Ouais.
Non, mais toutes les équipes nous mettent en difficulté. En fait, c'est l'organisation, elle nous met en difficulté.
C'est le piège.
Pour qu'on perde le prochain match, je pense que bon, c'est un piège. Mais on est habitué à ça. On est déjà allé en Corée, au Japon, là, pendant le premier tour. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Mais on s'auto-soutient tous. On a un super groupe. On vit super bien ensemble. Donc tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Et puis on espère avoir une business class dans l'avion.
Et puis il faut atteindre le chiffre quoi de 17 maintenant. 17 victoires de suite. Ça voudrait dire que vous, même 18.
Bon
ça, ouais, 18 même. Ce serait bon signe. Ça voudrait dire que vous auriez remporté cette Ligue mondiale. Bon, en gros, vous prenez les repères pour l'année prochaine, quoi. Hein, Rio.
Exactement ça, en fait, on veut vraiment se frotter aux grosses équipes pour voir où on en est et encore progresser, parce que notre objectif premier, comme je disais tout à l'heure, c'est les Olympiades. Donc plus on se frotte vite aux grosses équipes, plus on va progresser, plus on va gagner en maturité et en expérience, et puis j'espère que on saura comment se qualifier pour les JO de Londres, les JO de Rio l'année prochaine.
Merci Génia Grebennikov, libéro de cette équipe de France de volley qui s'envole donc pour Rio et pour le Final Six de la Ligue mondiale. À bientôt.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Nous, on va voyager un petit peu moins loin dans quelques instants, par Rio, Villeneuve-d'Ascq, le temps est gris, championnat de France d'athlé, mais ça devrait aller très vite. Dans 9 minutes maintenant, le 200 mètres, la revanche, Vico, le maître. Hier, c'est Vico qui a gagné sur 100 mètres. Eh ben, nous, on va avoir le 200 avec peut-être une revanche pour Christophe le maître.
RMC, Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h44 sur RMC. Dans quelques instants, on va partir. On va même y aller tout de suite du côté de Villeneuve-d'Ascq. Retrouver François-Xavier de Châteaufort. Bonsoir, Fix.
Bonsoir, bonsoir.
Et on est aussi avec Maryse Evan GP. Salut, Maryse.
Salut.
Parce qu'on a un beau programme qui nous attend dans quelques instants. La finale du 200 mètres avec la revanche fixe, ouais. Le maître Vico.
Ouais, avec Jimmy Vico à l'instant même présenté au public du Stade Omnium Métropole. Il sera au couloir numéro 4 de cette finale du 200 mètres. Juste à sa droite, Christophe Lemaître au couloir numéro 5. Christophe Lemaître concentré comme jamais. Les yeux vraiment focus. Il est vraiment concentré, pas un sourire pour le public, mais vraiment il est dans sa bulle, Christophe Lemaître. Il veut absolument conserver ce titre de champion de France, Maryse. Il y aura de la bagarre parce que Jimmy Vico va plus vite que d'habitude. Et Christophe, on sait, c'est sa course de prédiction.
Revanche ou pas, Maryse?
Revanche très difficile. Hein. Là, si on devait faire les paris RMC, j'aurais bien du mal, parce qu'avec le chrono que nous a fait Jimmy, on peut imaginer qu'il a un petit accessite, sauf que 10-07, c'est la performance qu'a réalisé Christophe Lemaître sur le 100 mètres. Et avec sa pointe de vitesse, on sait qu'il finit très très fort sur le 200. Je dirais qu'il y a un léger avantage à Christophe Lemaître. Mais à n'en pas douter, il va y avoir une très très grosse baston. À nouveau peut-être arbitré par les petits outsiders. On rappelle le podium peut-être de 2014. C'était Christophe Lemaitre devant Teddy Tinmar et Pierre Vincent. Mais il n'y avait pas un certain Jimmy Vico. Donc là, la donne est complètement changée. Hein.
Ouais, effectivement. On va voir ça dans quelques instants. Les 8 finalistes se sont mis dans les starts. Prêts à dépoter sur ce demi-tour de piste finale du 200 mètres. C'est le dernier rendez-vous de ces championnats de France. Après, ça sera terminé, ça sera rideau. On espère une apothéose, un bouquet final dans cette finale du 200. Tout le monde retient son souffle ici avant donc la grande explication entre Jimmy Vico au couloir 4 et Christophe Lemaitre au couloir numéro 5. C'est parti pour tout le monde avec un bon départ de Christophe Lemaitre qui nous fait un très 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 beau virage. Mais Jimmy Vico est également bien dans l'allure. On va voir ce que ça donne à l'entrée de la dernière ligne droite. Pour l'instant, Christophe Lemaitre est devant. Christophe Lemaitre devant, mais Jimmy Vico revient, ils sont au coude à coude des deux. Oh, la bagarre est fantastique. Christophe est devant, Christophe est champion de France, Christophe est champion de France en 20 secondes et 30 centièmes. Jimmy Vico qui s'est battu, on a cru que Jimmy allait pouvoir revenir sur Christophe, mais Christophe a tenu bon la cadence. Christophe Lemaitre reste le patron en France du 200 mètres, 20-28 pour Christophe, 20-42 pour Jimmy qui n'a pas fait les minima pour Pékin.
Et vent régulier, hein, 0,6 mètres par seconde. On a eu une vraie bagarre avec un 20-28.
Alors là, oui, c'est une course de championnat, mais avec un très bon niveau, hein, parce que on se rappelle quand même que Christophe Lemaitre était finaliste des derniers championnats du monde en un petit peu moins de 20-20. Je sais plus si c'était 20-12 ou 20-16. Je crois que je vérifie, mais c'était un petit peu en dessous de 20-20. Et là, on n'oublie pas non plus qu'on est dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu trois courses de 100 mètres et deux courses de 200 mètres. Et c'est vrai que c'est de bon augure pour tous les deux parce qu'ils sont visiblement réparés. On fait pas cinq courses à ce niveau-là de compétition, à cette vitesse-là, si on est en délicatesse avec ses muscles. Donc tout va très bien pour l'un comme pour l'autre, mais je pense que Jimmy doit être un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à accrocher cette qualification sur 200 mètres.
Est-ce que c'est pas mieux finalement de faire que le 100 mètres pour lui au championnat du monde et le relais?
Alors pas forcément, parce que j'allais dire effectivement là, tu as rajouté et le relais, et là ça va modifier ma réponse. Le 200 mètres est toujours après le 100 mètres, donc pas de risque pour le 100 mètres, mais effectivement il y a quand même un gros coup à jouer en relais, puisque en relais la France est tout le temps et montée sur tous les podiums depuis 2009, à l'exception notable quand même de 2013 à Moscou.
Marcel et Maryse, oui, on va faire très très rapide parce que j'ai Gany Yalouze, le directeur technique national, qui est un peu pressé par le protocole apparemment. Oui. Enfin, donc on va en profiter de sa présence. Gany, ça y est là, les championnats de France sont terminés. Quel bilan tu tires de ces championnats de France? On a vu une très beau finish sur ce 200 entre Jimmy et Christophe. Hein.
C'est à l'image du 100 mètres tout simplement. C'est Jimmy qui a boosté Christophe Lemaitre sur le 100 mètres. Et là, voilà, c'est l'inverse. C'est Christophe Lemaitre qui a boosté tout simplement Jimmy Vico. Et voilà, ce que je dis, c'est que on se sublime quand on a de la belle confrontation.
Quelle image tu retiens de ces championnats de France?
Depuis 7 ans, que tout le monde soit présent, que tout le monde donne le maximum, en tout cas sur ce terrain de jeu qui est exceptionnel. Et puis je suis très heureux surtout que tous les athlètes soient présents. Mais bon, il y a des blessés, c'est pas très grave, mais en tout cas les athlètes donnent le maximum et sont présents, et ça c'est très important.
Rodo Lavillini qui nous a fait plaisir quand même là, il s'est
oui.
Après
bah, c'est bien
nous
c'est bien
peur,
c'est la discussion
peu.
Qu'on avait hier avec ou avant-hier, je me rappelle,
on
hier
en
a
matin
avec, hier matin Maryse, oui. Voilà, je veux dire, à un moment c'est voilà, mais il est très heureux, il est conforté, il a besoin d'un petit peu de jus, un peu de repos, comme on disait. Voilà, on reste des êtres humains, on a aussi besoin de récupération, on n'est pas des machines.
Et puis voilà, on va essayer de le rappeler, hein, pour
exact, eux, voilà. Et donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, ils ont un bon petit mois, et puis nous, on va aller au comité de sélection pour cette première étape.
Voilà, la partie Marcel difficile pour les sélectionneurs.
Marcel et Maryse, je vous laisse gagner. Je vais descendre en zone mixte. Vous êtes en bonne compagnie. Voilà, je vous laisse gagner, c'est cadeau.
Oh, bah, c'est gentil. Ouais. Oui, je disais, c'est la partie difficile, hein, pour un sélectionneur. Maintenant, poser sur la table les pour, les contre, les conditions un peu difficiles pour certains, le vent tournant, etc.
Exactement.
Et puis voir ceux qui méritent de partir, même s'ils sont un tout petit peu à quelques centièmes. Quand on a un Jimmy Vico comme ça qui est tout proche des minima sur 200 mètres mais qui ne les fait pas, la discussion va être serrée ou
on va regarder déjà par rapport au classement. Et puis c'est pour ça aussi, Maryse, qu'on a, tu vois, on a vraiment cherché à prolonger. C'est une année, on va dire, qui est transitoire pour moi, parce que l'objectif restera quand même les Jeux Olympiques.
Oui.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on a prolongé encore de 2 semaines pour leur permettre d'aller chercher leur niveau de performance. Donc ils ont encore un peu de temps, puisqu'on a un petit peu également également sur le triple saut. Personne n'a fait le niveau d'exigence.
Oui, tout à
voilà,
fait.
Donc ça leur laisse quand même deux semaines. Et je pense que là-dessus, c'est un côté aussi de ne pas les faire speeder, entre guillemets, avec une forme de sérénité et de pouvoir aller chercher leur niveau de performance.
C'est quoi la date butoir pour la sélection, Gagny?
C'est dans deux semaines.
Après Londres, ça doit être le dernier, je pense.
Avant, on s'arrêtait à Monaco. On a rajouté encore une semaine. Et voilà. Donc, on a une approche un peu plus humaine. Et puis, surtout, de les préserver, qu'ils ne soient pas dans la précipitation.
Merci, Gagny Alouze.
Merci à vous. Et à très bientôt.
Bonne fin de week-end, évidemment.
Merci beaucoup. Merci.
Sur RMC, radio officielle de l'équipe de France Olympique, bien sûr. On n'a pas donné tous les résultats. On va juste revenir aussi, Maryse. 110 mètres et. C'est pas Garfield, c'est pas Pascal Martin ou Lagarde qui a gagné, c'est Garfield Darien, 13 secondes 17.
Oui.
Est-ce que c'est une surprise pour toi ça ?
Non, c'est pas une surprise parce que Garfield Darien, c'était la perle qu'on avait découvert il y a maintenant deux saisons de ça, qui avait fait 13-18 si je ne m'abuse, ou non, il doit être à 200e je crois de son record personnel, 13-16 et auquel on prédisait le plus grand avenir. Je me revois encore en train de dire au micro d'RMC que je voyais ce garçon en dessous des 13 secondes et qui serait peut-être le premier français à pouvoir se rapprocher du record du monde. Ça c'était il y a 3 saisons. Entre-temps, la Skumoun s'est invitée sur les barrières, comme s'il n'y en avait pas assez, des barrières déjà, puisqu'il a attrapé une année la mononucléose et qu'à peine revenu, il a attrapé la chikungunya. C'est quand même pas banal, donc ce ne sont pas des blessures physiques. Alors, il le disait lui-même, ces maladies lui ont peut-être permis de se reposer physiquement, parce qu'au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas traumatisé musculairement, il a pu se reposer, s'entraîner. Corps, ouais, ouais. Il a fallu simplement récupérer un bon physique parce que ça vous laisse totalement à plat. Et là, le voilà revenu à son meilleur niveau et c'est super intéressant parce qu'il va se passer ce qui se passe au saut à la perche, il va se passer surtout ce qui se passe en ce moment sur le sprint français entre Jimmy Vico, Christophe Lemaître et quelques autres, Vincent Pierre et plein d'autres qui arrivent derrière qui battent leur record. Je l'ai perdu, mais tu vas m'aider parce que. Attends, je vais remettre mes yeux. Parce que sans les yeux, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, je l'ai perdu.
Ils étaient tombés, tes yeux ?
Ils étaient tombés, ouais, j'ai perdu mes yeux. Qui bat son record au. L'autre élève de Guillaume Tanon qui bat son record au meeting Areva. Je le retrouverai tout à l'heure.
Emmanuel Biron.
Voilà, tout à fait.
10-18 et qui a fait 10-17 hier.
Ça, c'est la vieillure. Voilà. Hein, au bout de quelques heures de radio, on est complètement cadé. Ouais. Et ce qui se passe en ce moment sur le sprint, c'est ce qui va se repasser sur l'école du centimètre E, parce que c'est vrai que les nous ont habitués à ce type de baston. On a vu cet hiver pour la première fois un triplé historique pour l'équipe de France au championnat d'Europe en salle, 1-2-3. Et là, ça va les pousser vraiment plus loin, parce qu'on voit en ce moment, par exemple, Pascal Martin ou Lagarde qui coince un petit peu, qui a l'air tout simplement un petit peu émoussé, un peu fatigué, peut-être un peu comme Renaud Lavillenie. Il y a eu des meetings, il y a eu des Diamond League, il a fallu aller un peu partout dans le monde. Et puis là, eh bien, effectivement, celui qui en profite, c'est Garfield Darien, qui redevient champion de France. Son dernier titre était 2012. En 2012. Mmh. C'est pas une surprise, c'est une bonne surprise, on va dire. Ouais, voilà. C'est pas un étonnement. En tout cas, il ne sort pas de n'importe
ouais,
où.
Alors, clair, c'est un beau retour,
Bascou,
quoi.
Martino Lagarde, Darien, ça commence à faire quand même jolie figure.
Ouais. Et puis, le petit Bélocian aussi, bon, même s'il est
et
un William peu
Et Willem Bélocian, qui actuellement est un petit peu blessé. Ça aurait été un championnat de France probablement un peu dramatique parce qu'effectivement, ils étaient 4 pour 3 places. Et je pense que le DTN, d'ailleurs, va là encore avoir un casse-tête et que les deux semaines qui viennent vont peut-être servir à partager ces trois garçons, je crois que
Pascal Martin ou Lagarde, il est qualifié directement pour avoir gagné la Diamond League l'année dernière.
Ah, c'est parfait. Alors là, s'il y a 4 places, c'est royal au bar.
Il y a 4 places sur 100.
C'est royal au bar.
Voilà.
Il a très bien fait. Comme quoi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de Français quand même qui gagnent.
Bon, merci beaucoup, Maryse Evangépé.
Voilà, et puis on aura rentré, et puis on va se voir très bientôt, puisqu'il y a le meeting de Monaco.
Et puis Londres, et puis les championnats du monde. On rappelle, tout le temps, tout l'été, il y a de l'athlé. On va se régaler, Maryse. Et on s'est régalé cet après-midi. Merci Maryse. On va retrouver Eric Salio du côté de Wimbledon. Toi, fermé, mais on a quand même la tête dans les étoiles à Wimbledon. Surtout Novak Djokovic, Eric.
Ah oui, surtout Novak Djokovic qui, ça y est, a reçu son trophée, son troisième trophée. Et quand on consulte les gars qu'il a battus en finale, en 2011 c'était Nadal, l'an passé c'était Federer et de nouveau Federer. Donc il bat que des cadors. Donc il était aux anges et sous Barker lui a demandé de développer un peu sa tradition, c'est-à-dire qu'à chaque fois il mange un petit morceau d'herbe. Il a dit, écoutez, cette année, je sais pas ce qu'ils ont fait les jardiniers, mais C'était vraiment très spécial et vraiment il a.
C'est un bon cru.
Il a adoré toute cette quinzaine, bien sûr. Comme tu l'as dit, hein, il y avait cet échec à Roland Garros à effacer. Bah voilà, c'est fait de manière parfaite, quasiment parfaite. Même s'il a eu connu un tournoi difficile avec un huitième de finale ultra dangereux qu'il a négocié au mieux. Mais voilà, Djokovic conforte sa place de numéro un mondial. Il remporte son 9e titre du Grand Chelem. Il n'y a pas eu de larmes cette fois chez Federer. On se souvient que l'an passé, lors de la remise, une photographe avait saisi l'événement, c'est-à-dire qu'une petite larme avait perlé, mais là cette fois-ci non. Roger Federer éprouve beaucoup moins de regrets que l'an passé, défaite en 4 manches, et c'est vrai que dans les deux derniers il a été surclassé.
Il a même le sourire là, Roger, quand il regarde Novak faire son petit
tour. Pourtant il n'aime pas perdre, hein.
Ah oui, ça
peut te confirmer.
Je sais pas lequel des deux aime le plus perdre.
3 ans qu'il n'a plus soulevé
un
titre majeur, d'un trophée, mais ouais, ça commence à faire beaucoup, et voilà, on va encore extrapoler. Est-ce qu'il va en gagner un autre? En tout cas, attention, faut faire attention à Djokovic, il en est à 9, hein, Federer, son avance.
17, hein, Roger, c'est ça. Hein,
17, ouais. Et comme on sait que Nadal commence à bloquer aussi, donc est-ce que c'est pas Nole, son véritable adversaire, mais bon, il a de la marge quand même.
Bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Eric. On s'est régalé avec toi pour cette finale et cette victoire de Djokovic. On va aller te laisser aller voir ces deux champions pour récupérer leurs impressions.
Et puis on entame la semaine du Queen's.
Et puis évidemment, le quart de finale.
Espionner nos petits bleus.
Et on y sera sur RMC, bien sûr, vendredi, samedi, dimanche du côté du Queen's avec dès demain donc les Français au boulot. Salut Eric.
Ciao, ciao.
18h57 sur RMC et on va aller du côté de Plumelec, le Tour de France qui s'est joué à quelques centièmes, Christophe Cessieu, aujourd'hui.
Pas le Tour de France, l'étape du Tour de France,
c'est
Martial.
Vrai.
Il reste encore
deux semaines. La 9e étape, 62 centièmes. Mais
on espère qu'il va se passer encore des choses.
Il y a de la bagarre en général qui est prometteuse, c'est vrai.
Mais ce serait pas mal que le Tour de France s'achève avec un écart de 62
centièmes. Il y aurait des larmes,
ça,
à mon avis. Hein.
On signe tout de suite, en tous les cas, parce que le suspense, on ne sait pas trop s'il en reste encore ce soir au terme de la première partie du Tour de France, parce que là, c'est terminé pour cette première partie. La plaine, le nord de la France, le nord de l'Europe même, désormais, place au sud, beau que les coureurs vont rallier dans quelques minutes. Et puis évidemment mardi, l'entrée en montagne. Existe-t-il encore avant même l'entrée en montagne du suspense dans ce Tour de France? Ce sera l'un des thèmes de nos débats dans quelques instants, juste après les infos 19h avec Luc Leblanc, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. On s'intéressera également aux Français. Peuvent-ils encore espérer quelque chose sur ce Tour? Voilà le thème de nos débats. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et on revient juste après les infos 19h.
RMC, Intégral Tour.